Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiphaine de Rocchini mais aussi Samuel Bernard, Clémence Alezard, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Jean-Christophe Francis et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du Monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Grand reporter au journal Le Monde, bien sûr. On va parler d'Irak et de Syrie. Au Levant, les forces de l'État islamique continuent de perdre du terrain. En 2016, elles avaient perdu Dabiq et Manjib en Syrie, mais aussi Ramadi et Fallujah en Irak. Désormais, c'est au tour de leurs deux capitales d'être menacées. Du côté de Mossoul, deuxième ville d'Irak occupée par Daesh depuis l'été 2014, la cité n'est pas loin d'être libérée. Les djihadistes sont confinés dans le dédale de la vieille ville. Et cette semaine, le Premier ministre Haider al-Abadi parlait d'une victoire imminente. Du côté de la Syrie, cette fois, le fief des djihadistes est aussi fragilisé. Hier, l'armée russe indiquait avoir frappé des unités de combattants tentant de fuir vers la ville de Palmyre. Et le fondateur de l'agence de propagande de l'État islamique, Rayan Mashal, était tué dans un raid aérien de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. L'étau se resserre donc sur le groupe terroriste. Que pourrait-il se passer désormais? Comment les différents protagonistes de la libération vont-ils gérer l'après-Daesh? Qui seront les vrais bénéficiaires de la défaite de Daesh? Voilà la question qu'on va se poser ce matin pour se faire deux invités avec nous. Alaa Khodmani, bonjour.
Bonjour.
Journaliste franco-syrienne, grand reporter à Libération. À vos côtés, Hocham Daoud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes-vous anthropologue, chercheur au CNRS et puis l'ancien directeur de la branche irakienne de l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin avec nous. Pour commencer, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres, le journaliste qui n'est pas vraiment journaliste, mais un peu quand même, qu'on reçoit ce matin, revient du Mexique, c'est François Cusset, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes écrivain, essayiste, historien de formation et puis professeur de civilisation américaine à l'université de Nanterre et on vous reçoit pour un article qui vient de paraître dans le nouveau numéro du Monde Diplomatique sur l'expérience autonomiste néo-zapatiste. Vous êtes allé une quinzaine de jours donc dans la région des Chiapas au sud du Mexique pour faire un point un peu sur l'état de cette révolution zapatiste. Il faut rappeler quelques éléments pour les auditeurs. Au début des années 90, dans le sillage d'Emiliano Zapata, héros de la révolution mexicaine, mort maintenant il y a presque 100 ans, c'était en 1919, un groupe révolutionnaire politico-militaire basé dans l'état des Chiapas se forme, l'armée zapatiste de libération nationale, créée d'ailleurs le 1er janvier 1994. C'est pas n'importe quelle date, puisque c'est le jour de l'entrée en vigueur de l'accord international entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. C'est le fameux accord de l'ALENA. Alors on se souvient que c'est comme ces combattants zapatistes, visages cachés par leur fameux passe-montagne, viennent déclarer la guerre au gouvernement fédéral et à son armée. Cette armée zapatiste de libération affirme alors représenter les droits des populations indigènes, mais aussi toutes celles des minorités. L'organisation devient d'une certaine manière l'un des symboles, en tout cas, de la lutte altermondialiste. Et puis, déferle sur l'Amérique latine, la gauche, les forces de gauche, au Brésil, au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, marginalisant d'une certaine manière la portée et l'action de l'idéologie défendue par les néo-zapatistes. Et pourtant, avec évidemment ces pays que j'évoquais, notamment je pense au Brésil, au Venezuela, qui sont dans des crises économiques, politiques, institutionnelles, la question se pose justement de savoir comment ce mouvement s'est développé localement et quel bilan on peut en faire. C'est ce que vous avez essayé de faire justement dans votre papier. D'abord, première question, vous n'êtes pas un grand spécialiste du Mexique, pas un grand spécialiste des mouvements insurrectionnels. Par ailleurs, vous n'êtes pas journaliste de formation. Qu'est-ce qui vous a lancé dans le traitement de ce sujet en particulier ?
J'ai un intérêt personnel, en tout cas pour le Mexique. Le Monde Diplomatique a eu la bonne idée de me proposer d'y aller. Et puis, plus globalement, plus largement, si on s'intéresse à l'histoire contemporaine, une révolution qui dure, qui fonctionne, et là, je m'adresse à tout le monde et à toutes les... Voilà, ça concerne tous les coins de la planète. C'est extrêmement intéressant d'aller voir pourquoi et comment ce miracle est possible. Puisque, comme on le sait, hein, on peut faire la liste infinie des révolutions qui échouent, ne durent pas, sont récupérées, ou trahi, ou tout simplement, comme c'est le cas dans les pays d'Amérique latine que vous venez de citer, qui se pétrifie en État et en force étatique antidémocratique qui confisque le pouvoir. Dans le cas du zapatisme, 23 ans, c'est extrêmement long. Donc 94-2017, là, pour l'instant. Vraiment, hein, on peut faire la liste au XXe siècle des expériences comparable en sur une population, là il y a 200 000 habitants, mais ça peut être plus ou moins, ça dure un an, deux ans, c'est réprimé, que ce soit voilà, ou alors ça s'est transféré vers des dictatures comme le dans le cas des soviets russes, voilà, avec l'arrivée de Staline au pouvoir. Donc ces expériences là ne durent pas. Pourquoi celle-ci a duré, dans quelles conditions? C'est ça qui m'a intéressé, et là j'ai découvert effectivement une expérience extrêmement particulière, d'ailleurs pas prosélyte, qui ne cherche pas à faire des émules, mais qui en revanche s'intéresse à toutes les expériences similaires aux quatre coins du monde. Alors c'est tout à fait hors sujet, mais par exemple ils ont des liens même avec les Kurdes, ça peut être aussi avec des mouvements urbains ou avec Via Campesina, l'international, voilà. Donc c'est effectivement la recherche de solidarité et de coordination de ces luttes-là, qui sont des luttes singulières, ne cherchant pas à se répandre nécessairement.
Alors on va essayer évidemment de comprendre la nature de cette autogouvernance. D'abord un mot, ça n'a pas été si facile que ça d'avoir accès à cette communauté. Au départ en tout cas, elles se sont montrées un petit peu réticentes.
Oui, alors effectivement, bon, d'abord il y a tout un rapport au temps propre peut-être aux Indiens mayas du Mexique et à beaucoup de populations indigènes, c'est qu'il faut l'avoir le temps, et que nous autres, on ne l'a pas, et on est même d'ailleurs un peu arrogant avec ce temps qui manque. Donc ils se sont moqués de moi quand je leur ai expliqué que j'avais 15 jours, comme si effectivement il fallait rester 6 mois, pour, ils avaient raison, pour vraiment y aller. Et puis en fait, l'autogouvernement, c'est-à-dire la participation de tous, mais vraiment de tous, aux assemblées, aux réunions, aux discussions, ça signifie que les Indiens zapatistes sont en réunion très souvent. Donc littéralement, en moyenne, on va dire 2 jours par semaine ou 10 jours par mois à peu près. Si bien que dans les zones où j'ai voulu me rendre, donc qui sont les chefs-lieux, les caracoles, qui veut dire escargot en espagnol, lenteur de la politique, je me suis fait repousser plusieurs fois parce qu'ils m'ont dit non, il y a réunion. Et de fait, je voyais effectivement des centaines d'Indiens sortir de réunion, rentrer dans une réunion.
Et vous pouviez pas y accéder, difficilement.
Bah à ce moment-là, non, parce que je les comprends. Enfin, ils avaient autre chose à faire que de réunir quelques responsables pour me décrire l'expérience zapatiste. Donc j'ai fini par trouver dans une des zones zapatistes, à Morelia, la plus petite, un moment sans réunion, où là j'ai pu effectivement rencontrer les responsables et discuter très longuement et visiter les lieux, voir comment ça fonctionnait.
Alors justement, on a progressivement mis en place du côté des néo-zapatistes un système qui permet d'organiser cette autonomie, parce que d'abord ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas un projet sécessionniste, c'est vraiment un projet autonomiste. Il y a une vraie différence. Et d'ailleurs, vous dites que ces Indiens sont relativement patriotes en réalité.
Oui, ils sont fiers d'être mexicains. Et vraiment, ils ne cessent de répéter que ce qu'ils veulent, c'est de créer à l'intérieur du Mexique un endroit où être libre de mettre en place cette autonomie politique, de vivre la vie traditionnelle indigène qui est la leur, et de créer une quasi, parce qu'elle n'est pas complète, autosuffisance matérielle et alimentaire. Mais à l'intérieur du Mexique, à chaque réunion, on entend l'hymne mexicain, le drapeau mexicain flotte à côté du drapeau zapatiste. Donc c'est pas une sécession, donc c'est pas la tradition nationaliste ou contre-nationaliste que nous connaissons en Europe. Alors après, il y a l'aspect économique qui effectivement est clé, c'est-à-dire comment peut-on atteindre une autosuffisance. Donc là, il faut tout de suite dire que celle qu'ils ont atteint, et de fait, n'est pas transposable chez nous. C'est-à-dire que ce sont des vies, des conditions de vie matérielles beaucoup plus sobres. Donc ils ont l'autosuffisance alimentaire, ce qui dans un pays pauvre où les Indiens sont très pauvres est en soi un vrai exploit, avec une nourriture assez frugale, mais pour tout le monde, ils ont même des surplus qu'ils vendent en fait aux non-zapatistes de la région. Ils ont ensuite ils sont obligés d'acheter avec de l'argent justement issu de ces ventes aux non-zapatistes. Ils achètent ce qu'ils ne produisent pas, téléphone portable, voiture pour aller aux quatre coins de la zone, parce que c'est très très étendu, on est dans la jungle quand même. Et différents équipements. Et le plus impressionnant, et peut-être pas économique, le plus impressionnant, ce sont les 3 services publics zapatistes qui sont assurés vraiment par la collectivité de façon bénévole, amateur, non professionnelle.
L'éducation, la santé et la justice.
Voilà, exactement. Et alors l'éducation, et dans les 3 cas, il y a vraiment là aussi des résultats impressionnants. C'est-à-dire pour l'éducation, c'est tout simplement le meilleur système éducatif pour les minorités indiennes dans l'ensemble du Mexique, avec un taux d'alphabétisation bien supérieur et avec des élèves, des écoles qui font tout, qui fabriquent tout.
Et qu'est-ce qu'on y apprend? C'est le même programme que dans le reste du Mexique?
Non, c'est différent. Alors d'abord, c'est une éducation entièrement bilingue pour apprendre l'espagnol et les langues indiennes, puisqu'on veut qu'elles soient pratiquées. Et elles le sont de fait. On y apprend aussi des matières politiques qu'on n'enseignerait pas ni chez nous ni à Mexico. Histoire de la lutte anticoloniale, puisqu'il y a quand même 500 ans de lutte contre le colonialisme, d'abord d'abord espagnol, puis américain, puis les élites mexicaines. On y apprend la vie en milieu ambiant, donc une sorte de science naturelle, mais très écologique. Et puis on y apprend tout un ensemble de compétences matérielles qui fait que les apatistes savent fabriquer leurs chaussures, voilà, peindre des rideaux, fabriquer des escaliers, réparer un moteur, enfin, autant de, voilà, de compétences qui sont aussi importantes que la philosophie ou l'histoire qu'ils apprennent aussi.
Sur la santé, on a recours aux herbes médicinales, à la médecine traditionnelle, c'est ça ?
Alors, ils ont des casas de salud, des maisons de santé qui fonctionnent assez bien. Alors là, attention, comme il n'y a pas de formation médicale, il est évident que s'il faut une opération chirurgicale, ce sont des médecins extérieurs qui les pratiquent, parce que les apatistes ne peuvent pas, surtout, ils sont non professionnels. En revanche, les soins de base sont pratiqués, si bien que le niveau sanitaire est bien supérieur, là aussi, à l'ensemble de l'état du Chiapas, qui est un état assez pauvre, et que l'espérance de vie, voilà, y est supérieure, a augmenté en 20 ans d'expérience apatiste.
Et alors, quid de la justice ? Parce que ça, voilà un point intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des différends ? Ça doit exister, notamment peut-être autour de l'accès aux terres.
Alors, il y a deux types de différends. Il y a les différends avec les non-apatistes. Donc ça, c'est des tensions très fortes. Il y a des barrages militaires, il y a des menaces, il y a des paramilitaires qui font des provocations, voire des assassinats politiques. Donc là, c'est pas la justice qui s'en occupe. Là, c'est la structure militaire des apatistes, qui est le ZLN, l'armée. Mais pour ce qui est des différends internes, qui sont pour l'instant pas très graves, ils sont gérés avec, voilà, discussion, prévention, travaux d'utilité collective au lieu de la prison. Il y a une seule prison à peu près vide dans l'ensemble des 5 zones zapatistes. Et là aussi, c'est intéressant, les non-zapatistes, qui habitent vraiment la même région, préfèrent avoir recours à ce système qu'au système entièrement corrompu des tribunaux locaux. Parce que si on n'a pas de caution à donner, on finit en prison. Et en prison mexicaine, je vous déconseille d'y aller.
Oui, c'est ce que vous dites, François Cusset, c'est que c'est peut-être l'une des nouveautés aussi dans les dernières années, c'est que les non-zapatistes participent de plus en plus aux services publics et bénéficient de plus en plus à ces services public zapatiste.
Oui, parce qu'en parallèle, donc ça c'est vraiment le Mexique, il faut bien comprendre que le parti au pouvoir, le PRI, qui a le pouvoir depuis des décennies, en fait subventionne, c'est-à-dire en fait corrompt les populations locales, à la fois pour les vassaliser, enfin, les avoir à leur solde, et pour qu'elles en quelque sorte surveillent et menacent le mouvement zapatiste. Donc ce que font les non-zapatistes, c'est aller boire, se bourrer la gueule en fait, devant les zones zapatistes, puisque l'alcool est désormais prohibé en zone zapatiste.
Vous allez nous expliquer pourquoi.
Pour les narguer. Mais c'est aussi des menaces psychologiques, des menaces physiques. Sauf que ils se rendent compte que les services publics zapatistes sont bien meilleurs que les leurs. Donc ils sont pris entre deux feux, c'est-à-dire soit on exerce cette menace, soit on essaie de profiter de ce qui est là.
L'alcool a été interdit par les femmes.
Alors, donc il y a autre aspect très étonnant, c'est vraiment un mélange de zapatisme. Il y a une égalité sexuelle absolument radicale. Hein, c'est pas la parité un peu symbolique qu'on a dans nos pays. Elle vient en fait d'une tradition précoloniale qu'avait interrompu la colonisation espagnole. C'est la propriété privée, figurez-vous, qui crée l'inégalité entre hommes et femmes. Donc il y a cette égalité sexuelle radicale. Et donc on a proposé aux femmes au début de l'expérience zapatiste de faire voter des lois qu'elles-mêmes édicteraient et décideraient. Et bien figurez-vous que la première loi qu'elles ont imposée, c'est la loi sèche, la Ley Seca, donc prohibition de l'alcool, on peut le regretter, sauf que la violence domestique est tombée à zéro dans l'ensemble des 5 zones zapatistes. En gros, l'homme qui ne boit pas ne frappe pas sa femme, il faut croire que c'est aussi simple que ça. Et de ce point de vue-là, voilà, c'est une réussite qui ne semble pas regrettée par les locaux.
Il y a une forme de pragmatisme dans tout ça, vous dites, finalement les néo-zapatistes, ils sont moins radicaux que ce qu'on peut imaginer, ils sont d'abord et avant tout pragmatiques.
Oui, parce que de toutes ces choses-là, ici en Europe, en Amérique du Nord, on discute et on discute. Enfin, il y a 2 siècles de gauchisme très bavard, en fait. Sauf que eux n'ont pas de plan préétabli. Ils ont tout fait pragmatiquement. Ils ont tenté d'abord de négocier avec l'État et d'obtenir de l'État mexicain une autonomie. Et puis au bout de 10 ans, à se faire balader, on leur proposait une loi qui n'était pas inscrite dans la Constitution, donc qui en fait n'avait aucune valeur. Ils ont décidé pragmatiquement de le faire tout seuls. Et c'est d'ailleurs le message qu'ils portent désormais. Hein. On va peut-être en discuter une seconde, c'est-à-dire cette candidature à la présidentielle mexicaine pour l'an prochain. Le message est, si vous n'arrivez pas à obtenir d'une structure étatique, corrompue ou pas, ce qui améliorerait votre vie, faites sans, tout simplement.
Alors venons-en justement, François Cusset, à cette candidature, puisque fin 2016, en accord avec les communautés, a été créé un conseil indien de gouvernement. Sa représentante, parce que ce sera une femme, sera candidate à l'élection présidentielle pour l'année prochaine, 2018. Comment comprendre cet engagement dans la vie politique nationale ? Pourquoi cette décision de franchir le pas alors qu'on était resté dans un territoire très local ? Et qu'est-ce qu'on peut attendre, selon vous, de cette candidature ?
Alors, c'est vrai que cette décision a pris tout le monde de court. D'abord, les anarchistes du monde entier ont été très déçus de cette espèce de compromission avec le jeu électoral. Ils, ils, ils s'attendaient pas du tout à ça. Quant aux zapatistes eux-mêmes, ils étaient effectivement mal à l'aise avec cette décision. En fait, il y a une ruse dans tout ça, qui est évidemment pas la recherche du pouvoir, parce que comme c'est une candidate indigène du Comité national indigène et qu'il y a 15% d'indigènes au Mexique, a priori, elle peut pas avoir la majorité.
Voilà.
En revanche, il y a là une tentative de fédérer et de coordonner les luttes indigènes dans l'ensemble du Mexique, parce qu'il y a beaucoup d'autres luttes à moindre échelle, mais voilà, très courageuses, puisqu'elles luttent contre les narcos, luttent contre l'État corrompu, luttent contre les multinationales. Il s'agit de faire savoir à l'ensemble de la société mexicaine, mais aussi au monde entier, après tout, que ces luttes-là, durent, fonctionnent, obtiennent des résultats, et surtout peuvent fédérer leurs forces. C'est ça l'idée. Et puis de moquer un peu, dans cette espèce d'esprit et d'humour zapatiste, la déliquescence ou la pourriture du système étatique, du système de gouvernement et des partis au pouvoir, de gauche ou de droite, qui, au Mexique, peut-être plus qu'ailleurs, mais enfin, on n'est pas nécessairement mieux lotis, sont corrompus depuis des décennies.
Et en particulier, peut-être, les partis de gauche, justement, parce que la gauche de gouvernement est surprise, choquée, peut-être même agacée par cette future candidature. Le mouvement de Génération Nationale de López Obrador a moyennement apprécié.
Alors, effectivement, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris depuis le début du zapatisme entre la gauche officielle qui n'a toujours pas finalement obtenu, en tout cas, alors, ils ont la mairie de Mexico, ils ont des députés au Parlement, mais enfin ils n'ont pas le pouvoir politique qu'ils pourraient peut-être avoir l'année prochaine. Sauf que quand ils ont vu que la candidate inconnue, même pas encore nommée, avait 15 à 20% des intentions de vote sans avoir même de visage, évidemment, Ils l'ont mal digéré.
Donc, mais comment expliquer justement que cette gauche, elle se fasse déborder complètement par un mouvement qui est très local, une fois encore, qui ne représente que 15% de la population? C'est étonnant.
D'abord, il y a quand même les soutiens internationaux et les soutiens symboliques, c'est-à-dire y compris de la gauche et des intellectuels mexicains qui trouvent cette expérience, parce qu'elle est unique au monde, c'est vraiment une expérience d'autogouvernement, horizontale, radicale. Et puis, il y a le fait que la gauche, aussi louable soit ses projets, la gauche mexicaine officielle, a quand même baladé les zapatistes pendant des années, en leur proposant une alliance qui finalement n'a pas eu lieu, en leur promettant des choses qui, pareil, n'ont pas été votées, si bien que le sous-commandant Marcos, souvenez-vous, l'ancien leader de ce mouvement zapatiste, a décidé de rompre avec cette gauche. En 2006, il a même fait ce qu'il appelait l'autre campagne, c'est-à-dire une campagne pour moquer et décrédibiliser le parti de López Obrador. Là, je pense que la rupture est consommée. Je doute que pour 2018, il y ait une alliance. Évidemment, la théorie du moindre mal, c'est qu'il vaut mieux une gauche de gouvernement que le PRI, le parti corrompu officiel. Mais enfin, pour les zapatistes, c'est un peu...
Le parti corrompu officiel, j'aime bien l'expression. Mais ils ont un projet quand même sur le plan national, ces zapatistes?
Non, le seul projet national qu'ils ont, c'est vraiment de fédérer et de coordonner les luttes indigènes au Mexique. Mmh. Mais ce qui est intéressant, parce que c'est peut-être ça qui est difficile à comprendre pour nous, c'est qu'ils entendent par indigène pas quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire pas une origine ethnique, quelque chose de génétique.
Mais les minorités, en fait.
Voilà, c'est les minorités de tous ordres. Et c'est bien pour ça que dans tous leurs appels, qui sont des textes très lyriques, ou drôles, ou poétiques, ils font appel à toutes les minorités. On dit, voilà, c'est une liste à la Prévert où il y a les homosexuels, les prolétaires, les enseignants fonctionnaires dans des systèmes où finalement les enseignants, on n'en a plus besoin, et les fonctionnaires, on les vire. Donc tout ce qui ressemble à une minorité, sociale, sexuelle, ethnique, culturelle, et destinataire du message zapatiste.
On est assez loin de l'idéologie néo-zapatiste des années 90, en fait. Les nouvelles générations ont considérablement transformé ce mouvement, non?
En fait, c'est ce que dit Marcos, justement. Il dit, au début, on était carré, on était marxiste-léniniste, on était des professionnels de la politique, on est arrivé avec notre message et notre plan très clair. Et puis, les Indiens mayas, qui sont des gens plutôt ronds, nous ont arrondi les angles.
Ils ont limé les angles.
Voilà, ils ont limé les angles, ils nous ont littéralement transformé en des gens plus pragmatiques, plus doux, et surtout qui sont capables de faire des mélanges d'influences, des mélanges de différentes sources, de différents systèmes, si bien qu'on n'est plus du tout dans un mouvement marxiste-léniniste traditionnel, rien à voir.
Merci beaucoup François Cusset d'être passé donc dans le studio. Je rappelle votre papier qu'on peut lire dans le dernier numéro du Monde Diplomatique, Au Chiapas, la révolution s'obstine. Et puis je rappellerai aussi que vous étiez l'auteur l'année dernière de La droitisation du monde, c'était chez Textuel. Merci beaucoup d'être passé.
Je vous en prie.
C'est avec ce titre Luna de Nana Pancha, l'un des soutiens de ce néo-zapatisme dont on parlait à l'instant, qu'on tourne notre page, qu'on se dirige du côté du Levant, alors que l'État islamique s'apprête à perdre ses deux derniers bastions à Raqqa et à Mossoul, ciblés par les forces kurdes, irakiennes, américaines et même russes, qui seront les vrais bénéficiaires de la défaite de Daesh. Voilà notre question.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Les efforts sont conséquents et les forces nombreuses à travailler à l'effondrement de Daesh. Ils semblent porter leurs fruits. L'État islamique est en recul constant face aux acteurs de la libération dans ces deux derniers bastions, à Raqqa en Syrie, mais aussi à Mossoul en Irak.
C'est piégé ici. Tout est piégé. Je peux marcher là ?
Viens avec moi.
Oh, Tokyo, ça bombarde devant. Ouais, je vais derrière. Là, je vois le drapeau de Daesh au fond. La grande mosquée devant nous, c'est là que Al-Baghdadi a proclamé le califat. Voilà, peut-être demain, peut-être après-demain, ils la prendront, la mosquée.
Extrait d'un reportage de Boris Mabillard pour le journal Le Temps, c'était mardi dernier, donc au cœur des combats à Mossoul, et les djihadistes sont totalement encerclés et où le minaret depuis lequel a été déclaré le califat est désormais à portée de tir. Que pourra-t-il se passer désormais? Qui seront les vrais bénéficiaires de la défaite de Daesh? Qui tirera vraiment profit de cette victoire que beaucoup d'acteurs au calendrier et aux intérêts parfois divergents vont se disputer? Alaa Konmani, Hocham Daoud sont nos invités ce matin. Marc Semo, bien sûr, notre partenaire du Monde comme chaque vendredi. Marc, sur le terrain, on voit que les forces djihadistes accusent de lourdes pertes. Les assauts des différentes forces anti-Daesh les ont beaucoup fait plier ces dernières semaines. Les quartiers ouest de Mossoul ont été libérés, ils sont désormais retranchés dans un tout petit périmètre. À Raqqa, les djihadistes sont en train de se faire encercler par les forces démocratiques syriennes qui sont, rappelons-le, une coalition de combattants arabes et kurdes. Quand ils auront posé le siège, ils pourront lancer l'assaut. Et d'ailleurs, le Pentagone a annoncé cette semaine avoir commencé à livrer du matériel, des armes légères et des véhicules aux unités de protection du peuple kurde. On sent qu'on est entré là dans une phase finale, Marc, ce qui pose beaucoup d'interrogations, bien sûr, et notamment celle de savoir qui va tirer les bénéfices de cette défaite, Marc.
Absolument. Alors, il y a le jeu et les rivalités entre les grands acteurs régionaux, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Russie. Mais il y a aussi une autre question qu'on peut poser. C'est est-ce que c'est la fin de Daesh? C'est-à-dire la fin de ces territoires. Hein. Donc déjà, un tiers a été libéré. Mossoul et Raqqa, c'est une question de semaine. Est-ce que ça sera vraiment la fin de Daesh? Alors, la caractéristique de Daesh était effectivement le territoire. Et on peut dire que c'est une fin parce que ces territoires seront libérés. C'était sa caractéristique, cet autoproclamé califat, où ils ont reproduit un espèce d'État en s'inspirant des méthodes du Baas. D'ailleurs, les agents du Baas irakien de Saddam ont été fondamentaux dans la naissance de ce groupe djihadiste sunnite, un mélange donc de baasisme et de charia intégrale. Et de ce point de vue-là, c'est fini. Alors c'était sa force d'attraction, c'est pour ça que des milliers de jeunes, y compris d'Occident, sont venus. C'était aussi sa faiblesse, hein, parce que c'est un territoire, et quand surtout le groupe a été pris par le bris de ses conquêtes, hein, après la conquête de Mossoul en juin 2014, il s'est lancé après vers le Kurdistan. À ce moment-là, la communauté internationale a commencé à réagir. L'État islamique a lancé des attentats dans tout l'Occident, et évidemment, c'est devenu une priorité pour une communauté internationale qui, jusque-là, aurait très bien pu s'accommoder d'un espèce de sunnistan. D'autant que chacun des acteurs régionaux avait des ennemis pires que Daesh. Donc, en tout cas, une phase se termine. Et donc, maintenant, on aura une nouvelle mutation du djihadisme, comme déjà Al-Qaïda en avait subi. Et c'est peut-être la question que l'on doit aussi se poser, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer avec l'État islamique? Hein, on le voit aujourd'hui, il y a des attaques aux Philippines, il y a la Libye, il y a le Sahel et tout. Donc, est-ce qu'on n'aura pas une nouvelle mutation, aujourd'hui, du djihadisme? Ce qui est une autre manière, aussi, d'envisager la question.
On peut effectivement commencer à la Konmani avec cette question. Est-ce que retirer son territoire à Daesh revient à l'éradiquer? C'est la question que pose Marc.
Éradiquer le califat, sachant que je suis pas sûr que ça aille aussi vite, mais ça va se faire. Il y a une autre étape encore après Raqqa, mais non, retirer le califat, c'est important, surtout pour l'appel, j'allais dire la fascination, la séduction, la possibilité d'attirer plus de djihadistes, que ce soit des jeunes, comme on a pu voir ces dernières années, sorte de vrai territoire où on veut rêver de vivre, comme, enfin, selon la, cette idéologie totalitaire. Mais ça va affaiblir sur ce plan-là. Mais il est certain que cette dissémination des combattants et des djihadistes de Daesh, qui étaient quand même comprimés, quelque part, ils étaient retenus entre Syrie et Irak pendant un moment.
Là, ça va les disperser.
Ils vont partir et ils vont se disperser. Ils vont sûrement devoir se recycler, se réinventer, se retrouver, se regrouper ici ou là. Et là, c'est certain que... bon. C'est absolument imprévisible. Comme dit Marc, oui, il est certain que ça peut. Alors, ça peut être sous une autre appellation, puisque ce ne sera plus un État. État islamique va peut-être disparaître. On va revoir Al-Qaïda, ça peut être une autre étiquette, mais bon. Ça va arriver.
Vous lui rajoutez, Marc, avant
oui,
de passer la parole.
Oui, il y avait eu ça, justement, après la chute de l'Afghanistan des talibans, où Al-Qaïda, première mouture, avait justement, à partir de là, avait commencé à s'aimer partout, avec des petits...
Que change, selon vous, Hacham Daoud, cet éclatement du territoire de Daesh, qui était effectivement l'un des critères?
Oui, évidemment. Bon, la fin militaire de la structure Daesh classique qu'on connaît, quasi-État, ça métamorphosera l'organisation. Mais qui se projettera à l'international? C'est toute la question maintenant, et le mouvement et la précipitation qui se passe. Daesh, maintenant, ça commence réellement à s'internationaliser. Daesh, jusqu'à maintenant, ça a été un flot d'aide et de soutien international vers un territoire à édifier. Ce qui a fait qu'en 12 ans, 3 ans, de combattants, de djihadistes, de volontaires et d'autres, ils sont roués vers le territoire de Daesh infiniment plus qu'en 20 ans vers l'Afghanistan, etc. Parce qu'il y avait un projet d'État, un territoire, un contrôle, une construction. Là, maintenant, on arrive au bout. Donc, ceux qui constituent la base sociale de Daesh, ils resteront sur place. Ceux qui sont morts, ceux qui partiront dans des pays plus ou moins proches. Ils ont de culture de gestion de djihadisme à l'échelle internationale ou pas. C'est, je pense aux paysans, aux sunnites de coin, ceux qui étaient humiliés, les anciens militaires, etc. Leur périmètre, et la plupart du temps, c'est la Turquie peut-être à côté. Qu'est-ce qu'il va faire avec eux? Des milliers qui se trouvent sur place. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule frontière plus ou moins négociable de rentrer à un coût de 1 500 à 2 000 $, c'est vers la Turquie. Donc certains seront après vers l'international. Parmi ces gens-là, ceux qui étaient encore soldats de Daesh de base et d'autres qui étaient djihadistes et guéris. Donc c'est la difficulté qui commence. Après, nous avons d'autres gros bataillons qui concernent les djihadistes venant de l'international. Ceux qui sont péris, morts sur place, ceux qui sont repartis. Entre repartition, la question se pose. Est-ce qu'il y aura vraiment un programme de déradicalisation qui fonctionne? S'il fonctionne pas, est-ce que nous allons avoir affaire à des djihadistes, etc. Il semble que c'est la deuxième version qui l'emporte. C'est la raison pour laquelle, si je parle simplement du territoire que je connais bien, de Mossoul, il y a course contre la montre entre des forces spéciales de plusieurs pays qui va éliminer le plus possible de sa propre djihadistes.
C'est d'ailleurs ce qu'est en train de faire la France, qui visiblement délègue aux Irakiens l'élimination de ces djihadistes pour éviter qu'ils ne rentrent en France.
Il n'y a pas que délègue, ça se passe directement sur place.
Et on s'occupe aussi des Belges.
Ça se passe directement sur place. Dans les meilleures conditions, ils habillent de vêtements irakiens, c'est tout. Donc, deuxième information, c'est l'opération réelle. Aujourd'hui, il y a deux quartiers qui restent encore aux mains de Daesh, à Mossoul. Deux quartiers.
Je veux qu'on soit clair, parce que on fait référence quand même à un article du Wall Street Journal qui a été publié très récemment, qui révélait que les forces spéciales françaises utiliseraient les troupes irakiennes pour éliminer les djihadistes français. Vous vous dites non seulement ils les utilisent, mais en fait ils le font directement.
Écoutez, moi, j'ai lu l'article de Wall Street Journal, et je me base sur ma propre information, connaissance de terrain. Il y a une participation de forces spéciales internationales dans le combat, sur place. Et chacun a sa propre liste, et il sait qui se trouve d'autre face. Ce qui retarde jusqu'à maintenant la libération des dernières deux quartiers à Mossoul, c'est justement autour de cette question.
D'accord.
Est-ce qu'on les cherche vivants? Est-ce qu'on les cherche morts? Qui on cherche vivant? Qui on cherche mort? Qui gère l'opération? C'est une information pour vous. Ça gère l'opération de deux derniers quartiers. Ça pas que les Irakiens. C'est ce qu'on appelle de commandement commun. Al-Quwat al-Mushtaraka. En tête, c'est les Américains. Mais les autres, ils se trouvent aussi là. Donc, hier, par exemple, dans le quartier de Zinjali, la division dorée qui est rentrée, le soir, on les a donné l'ordre de se retirer. Mais combien de personnes, ils se trouvent là-dedans? On le considère autour de 500-600 qui restent, des djihadistes aguerris, avec beaucoup de populations civiles autour de 150 à 170 000. le nombre de morts, etc. Donc toute la question se pose autour de cela, la répartition de la ville. Aujourd'hui, Malin, c'est lui qui dit qui gère le reste de Mossoul libéré. Moi, je peux vous donner au moins cette force, qui s'en trouve segmentée dans l'espace mossoulite. Il n'y a pas un commandement commun. Donc, ça, c'est la question qui se pose après Daesh. Comment on va gérer ce territoire? Quelle projection on peut faire? Qui va gérer quoi? Est-ce qu'il y a un plan international? Est-ce que les sunnites, ils sont prêts? Donc, autour de cela,
c'est
vrai.
Mais la réponse est non.
Malheureusement, la réponse est non.
Les discussions achoppent pour l'instant.
Malheureusement, la réponse est non jusqu'à aujourd'hui.
À la Côte-Manie, est-ce que vous voulez réagir sur ce point? Et puis ensuite, on se posera la question des bénéficiaires réels, d'abord pour l'Irak et puis ensuite pour la Syrie. Mais je vous en prie, à la Côte-Manie.
Là, on est sur un problème essentiel qui a été un petit peu le problème de toute cette grande guerre contre le terrorisme ou contre Daesh, c'est qu'on ne prévoit pas le coup d'après, on ne prépare pas la stratégie, qu'il y a évidemment rivalité dispute même sur le terrain, que ce soit en Irak ou en Syrie. On sait par exemple, demain, Raqqa, qui aujourd'hui, et que les Américains ont choisi de mettre tous leurs œufs dans le même panier, c'est-à-dire celui du PYD syrien, affilié au PKK turc. Donc les forces kurdes. Les forces kurdes qui sont complètement majoritaires et qui ont le commandement des forces démocratiques syriennes qui mènent la bataille de Raqqa, avec évidemment les troupes spéciales américaines et tous les... Vraiment, sont presque redoutées par la population de Raqqa, qui est en majorité arabe sunnite et qui craint des déplacements, qui craint de n'être pas du tout traité justement par ces libérateurs, entre guillemets.
Et qui a des raisons de craindre.
Oui.
Par ailleurs. On pose cette question au Chamdaoud des bénéficiaires. Regardons du côté de Mossoul. Une fois que Mossoul sera tombé, qu'il n'y aura plus de djihadistes, ça va arriver. On ne sait pas quand, mais ça va arriver bientôt. Qui seront les bénéficiaires de cette défaite de Daesh en Irak? Le gouvernement central de Bagdad? L'Iran? La Russie? Chamdaoud.
Certainement le gouvernement central. Mais c'est encore une fois, le gouvernement central n'est pas uni. Nous avons le premier ministre qui se projette pour des élections locales dans 6 mois, nationales dans 1 an. Mais il est membre d'un bloc chiite. Il essaie de se libérer. Est-ce que Mossoul constituera quand même un plus symbolique et politique? Certainement. Est-ce qu'il y aura assez de troupes pour dire que Maliki, celui qui m'a précédé, il a sacrifié la tiers de l'État et moi j'ai libéré ce qu'il a sacrifié? C'est pourquoi il travaille. Mais on le voit, il est hésitant, il est faible. Il reste tiraillé entre son identité politique chiite et puis son projection irakienne. Nous sommes dans un cas de figure classique. Comment on construit un pouvoir? Avec quoi? Où se trouve l'imaginaire épuisé qui soit partagé par une base un peu plus large, qui va au-delà? Et deuxièmement, est-ce qu'il sera capable de prendre des décisions qui mécontentent, y compris sa propre base chiite au départ, pour donner des gages, des signes aux autres que je suis, vous voyez, irakien, je peux faire quelque chose de plus?
Parce que, justement, c'est la question qui a, entre autres, fait naître Daesh, c'est cette question de la place des sunnites.
Bien sûr.
Donc, alors, justement, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant à Mossoul pour leur donner une place?
Justement, la question qui se pose, la forme d'État. Il y a côté, bon, qui est le bénéficiaire? On a dit Abadi, on a dit aussi les Américains, les Kurdes, ils sont bénéficiaires. Qui sont perdants? Les sunnites et les autres. Donc la question qui se pose après pour la forme d'État à construire ou à ériger après Daesh, à ce moment-là, il faut qu'il soit un État qu'il accepte de partager le pouvoir au niveau local, un vrai fédéralisme avec une délégation réelle de pouvoir, surtout aux sunnites ou d'autres. Et y compris concernant les Kurdes, qui bénéficient d'un quasi-indépendance ou indépendance réelle depuis un quart de siècle, qu'il peut bénéficier d'avoir accès à certaines formes de relations internationales.
C'est ce qui est souhaitable, mais vous y croyez?
Et ces questions, est-ce qu'on peut faire autrement aujourd'hui? Est-ce qu'on peut demander à M. Barzani, même s'il a beaucoup de difficultés économiques, de difficultés de se retrouver en accord commun avec les autres parties de Kurdes, on lui dit, ben, écoutez, oubliez un quart de siècle que vous êtes indépendant, rentrez quand vous rentrez dans une famille d'un couple marié et vous recevrez l'ordre uniquement de Bagdad. Je crois que ce sera pas sage. Essentiel maintenant, il faut qu'il soit un gouvernement inclusif, que les gens ils soient capables de parler entre eux, surtout de répartir la richesse. la décision de pouvoir et puis leur donner des possibilités de se gouverner sur place au niveau culturel, économique, local et politique. Mais ça, ce ne sera pas fait sans une garantie régionale et internationale.
À la CODE m'a dit sur ce point, et puis ensuite on passera à la Syrie. Mais sur la question du pouvoir chiite, parce que dès l'été 2014, dès la mise en place de Daesh, on avait vu l'émergence d'une grande force des chiites d'Irak, cette mobilisation populaire qui avait été intégrée comme ça à la planification opérationnelle dans cette campagne anti-Daesh. Donc on avait vu une mobilisation des chiites irakiens qui était peut-être le signe que ce combat était avant tout un combat chiite, avant précisément d'être un combat irakien. Donc on a le sentiment que si Mossoul tombait, le grand vainqueur finalement de la défaite de Daesh, avant peut-être l'Irak, ce serait d'une certaine manière l'expansionnisme chiite. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Première question. Et ensuite, comment y répondre? Parce que de ce point de vue-là, c'est une très mauvaise nouvelle, en particulier pour les Américains, à la Khomeini.
Oui, je dirais que ce n'est pas un problème entre chiites ou irakiens. C'était surtout très iranien. Parce que il est certain que derrière cette exacerbation de toutes ces passions, et ça concerne l'Irak, ça concerne la Syrie, ça concerne bien au-delà. À travers cette communautarisation, il y a quand même un projet régional beaucoup plus profond qui instrumentalise, utilise, etc. L'influence de l'Iran sur en Irak, sur le gouvernement irakien depuis qu'il est là, fait que l'État faible est presque une volonté. Affaiblir l'État, renforcer le communautarisme, l'aspect communautaire, c'est un peu ce qui est en train de se passer en Syrie où encore une fois, on essaye de chiiser, de mettre plus de chiites dans certaines parties, de vider plus de sunnites de certaines parties du territoire pour une certaine continuité territoriale. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'aime pas toujours parler en termes de chiites et de... Mais c'est vrai qu'il y a eu un réveil extraordinaire ces dernières années et une sorte de messianisme infernal, de ranimer des figures historiques et tout d'un coup on se met à mourir pour Ali, pour Abbas, pour Zainab, etc. C'est la population appauvrie, non éduquée, de moins en moins éduquée, parce que ces dernières années je crois que l'analphabétisme a fait des ravages en Irak notamment, et en Syrie aussi. Voilà, c'est quand même, ça vaut la peine de s'intéresser à ce phénomène qui, en fait, fait fondre les identités et les nationalités et les politiques dans ce mouvement populaire chiite.
Marc, c'est bon.
Alors, en plus, ce problème intercommunautaire, c'est pas communautaire, mais disons, entre chiites et sunnites, est encore plus compliqué par le fait qu'on est à front renversé. C'est-à-dire, on a en Irak un pays avec une écrasante majorité chiite. Et en Syrie, exactement le contraire. Même si les Alaouites ne sont pas strictement sensus des chiites. Donc alors justement, dans cette donne aujourd'hui, avec l'administration Trump, qui, lors de son passage en Arabie Saoudite à Riyad, a pris fait et cause pour les Saoudiens, quasiment comme renversant ce qui avait été le jeu beaucoup plus équilibré que voulait Barack Obama, est-ce que ça ne complique pas encore un peu plus la donne?
Hossam Daoud.
Oui, c'est vrai, l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, ça modifie la donne un petit peu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé depuis 2-3 ans. Il y a une fragmentation politique à l'intérieur de chaque communauté. Il y a des disputes politiques interchiites, très aiguës, très fortes, comme on le voit chez les Kurdes aussi, comme on le voit chez les sunnites. Jusqu'à maintenant, les sunnites, ils sont incapables de proposer une version politique de ce qu'ils souhaitent. Il y avait ces dernières semaines deux réunions importantes, tenues secrètes. La première, ça a été en Suisse, la deuxième, très récemment, à Bruxelles, pour la communauté sunnite, avec l'aide de communautés internationales, y compris la Commission européenne, avec des participations tantôt avec Général Petraeus, y compris avec, une fois en Suisse, avec Dominique de Villepin et d'autres, etc. Toujours, c'est terminé avec une dispute intersunnite, incapable de proposer une version. Puis il y a une telle divergence par rapport à la région et la province sunnite, qui se trouve à l'Anbar, beaucoup plus axée vers la, vers le désert, avec une densité faible et avec une forte identité de soi, comme la province de Mossoul, qu'il souhaite avoir un fédéralisme proche de la Turquie, au moins sous garantie, sous Turque qui se trouve à l'intérieur de l'Irak. Donc il y a en effet une forme de fragmentation politique qui traverse toute la communauté. C'est là où nous avons une condition objective, ça peut être propice de l'apparition d'un homme qu'il peut fédérer, mais il faut qu'il soit appuyé par la force de l'armée, qu'il faut qu'il soit appuyé par des autorités religieuses.
Il existe, vous avez le profil en tête?
Et il y avait entre 2006-2010, c'est Maliki qui jouait cela, mais c'est terminé par un autoritarisme prononcé. Ouais. Abadi, il laisse cette volonté. Depuis quelques jours, on la voit avec des discours, etc. J'ai de tout ce qui me conforte dans ma position, il va aller vers un peu plus de position indépendante par rapport à sa base chiite. Ils sont partis d'origine Dawa. C'est la seule voie qui lui reste s'il veut rester au pouvoir. Concernant maintenant Trump et concernant l'Irak, vous savez, Trump, il dit, c'est vrai, nous avons fait une erreur en venant en Irak, mais on a dépensé tant d'argent, tant de morts. C'est pas le moment de quitter ce pays-là, bien plus. Il faut y aller davantage. Donc, il force Abadi pour multiplier la base militaire américaine.
Oui. Aujourd'hui, il y en a cinq ou six
de plus. Il y a plus de militaires américains à l'intérieur de l'Irak. Il faut pas oublier. C'est la première fois depuis Bush. La diplomatie américaine au Proche-Orient, particulièrement en Irak, est totalement absente. Même disparue. Le dossier de l'Irak est revenu au Pentagone. Aujourd'hui, le chef de Pentagone, il gère le dossier irakien. Il y a autre chose. 4 généraux très importants à l'intérieur de l'administration américaine. Tous les 4, ils sont issus de la conflit irakien. Et en tête, général Mattis. Donc ces gens-là, ils ont une expérience, une position, amertume. Ils ne veulent pas lâcher prise. Ils considèrent la première expérience, elle était faussée, soit par l'administration de Washington, mais surtout par l'Iran. Il faut attendre à l'avenir proche peut-être, de confrontations probablement dures entre l'Iran et les États-Unis sur le sol irakien.
Alaa Khodmani, la Syrie. Alors, la libération de Raqqa, évidemment, c'est pas aussi imminent que pour Mossoul. Les forces démocratiques syriennes resserrent leur étau, mais on n'est pas encore dans cette phase de l'assaut final de la ville. Mais on peut aussi déjà s'interroger sur, là aussi, les bénéficiaires de la défaite de Daesh. Et là, du coup, il faut peut-être se projeter dans une situation d'après Raqqa post-Daesh. Quand Raqqa sera libérée, on voit là que les protagonistes vont poursuivre évidemment leurs opérations, mais les priorités risquent peut-être de considérablement diverger. Pour le régime syrien et tous ses alliés, la priorité étant de récupérer la zone située à l'est de Damas pour fermer justement ce fameux arc chiite pro-iranien dont on parlait. Et pour les États-Unis, l'enjeu c'est précisément d'éviter tout ça. On voit là poindre finalement les conditions d'une confrontation assez directe entre le régime syrien et ses alliés, notamment la Russie, et puis la coalition internationale conduite par les États-Unis. On le voit là, c'est là.
Ils se sont vraiment, par leur allié interposé, presque déjà affrontés. C'est encore un petit coup par-ci, quelques missiles par-là.
Oui, il y a des avions américains récemment qui ont bombardé un convoi de miliciens pro-iraniens.
Il y a une bataille pour le contrôle de la frontière avec l'Irak.
Absolument, absolument.
Voilà. Une course de vitesse entre le régime appuyé par les Russes et...
Expliquez-nous ça, de cette stratégie, justement, cette course de vitesse.
Il y a une course de vitesse, c'est la course de vitesse à qui s'opposera, parce que c'est justement l'héritage de Daesh, l'héritage du territoire de Daesh est l'enjeu pour chacune des parties régionales ou internationales, qu'elles soient sur le terrain directement ou qu'elles appuient.
Donc, mais pour les Américains, il ne s'agit pas de contrôler directement. Il s'agit quoi?
Oui, mais il s'agit d'empêcher les Russes de le faire.
Donc en attirant des rebelles anti-Assad sur ces territoires-là.
Il s'agit d'empêcher que certains territoires ne tombent entre les mains du régime syrien, de son allié iranien et de son allié russe. Donc, exactement, on a vu ça. Bon, les Russes, comment ils se sont investis, souvenez-vous, dans Palmyre. Quand Palmyre a été reprise, on se souvient comment ça a été la fête, le concert, etc. Et cette espèce de trophée de morceaux de territoire de Daesh qu'on récupère, c'est aussi l'influence du jour d'après. Donc oui, on assiste à ça. Les Russes sont de plus en plus embêtés parce que ils sentent que Raqqa et tous les environs, ils vont pas pouvoir rétablir le régime dedans ou même avoir le moindre mot à dire. Ils essayent de commencer à mettre en question les forces démocratiques syriennes en disant qu'ils passent des accords avec Daesh, ce qui est vraisemblable aussi, pour hier laisser passer, ils l'ont fait, près de l'Euphrate, à Tabqa, il y a un accord. Ils passent un accord, comme ça il y a moins de massacres, et les combattants, les uns et les autres, s'en sortent, et ils ouvrent un passage, du coup, aux combattants de Daesh pour repartir. Mmh. Ça a été le cas hier. Il y a quelques jours, Lavrov, le ministre russe, l'a bien souligné, et ça semble vrai. Mais l'enjeu, c'est effectivement qui récupérera le plus de territoire possible de l'État islamique, sachant que le problème à la frontière... je voulais absolument préciser quelque chose. Après Raqqa, il y a Deir ez-Zor. C'est une ville très importante. Mmh. Pour l'État islamique, c'est encore plus important que Raqqa. En réalité, donc en poids économique, militaire, stratégique, etc. Pétrole. Et pétrole. C'est le seul, c'est là où il y a le plus de pétrole, qui continue d'ailleurs à être tiré n'importe comment, artisanalement, et vendu aux uns et aux autres, aux rebelles syriens, au régime syrien, etc.
Je vous coupe à la Podmani pour vous poser une question qui m'apparaît en vous entendant. La Syrie existe-t-elle encore ? Pour le dire autrement, est-ce que les acteurs en présence, le régime syrien, la Russie, les Iraniens, les Occidentaux, appelons-les comme ça, sont suffisamment puissants pour imposer encore une unité du pays ? C'est une question qu'on a évidemment posée souvent, notamment pour l'Irak, mais qui se pose aujourd'hui pour la Syrie.
Oui, non, mais maintenant, on est en train d'imposer chaque fois sur un patchwork, dans une division. Chacun s'impose dans une ville, une zone, une région, etc. D'où l'histoire de couper le pays en quatre zones, comme est le projet de Russe. Mais il est certain que c'est complètement... Mais ça rentre dans la bataille. C'est justement ça, c'est d'améliorer. Chacun cherche à améliorer son contrôle du territoire. Pourquoi est-ce que les Kurdes vont mener la bataille à Raqqa alors que c'est quand même pas vraiment leur territoire, plus vraiment leur territoire? C'est bon. D'abord parce que ils sont poussés par les Américains, mais c'est aussi pour avoir encore plus de profondeur.
Il y a un acteur qu'on a encore peu évoqué sur la Syrie, et là je me tourne vers vous, Marc, c'est la Turquie. Parce qu'on se souvient que la Turquie avait lancé une offensive aussi, son offensive militaire en Syrie, pour lutter évidemment contre Daesh, mais aussi pour empêcher les milices kurdes précisément de contrôler cette région frontalière. Et alors que jusqu'ici, Washington s'était contenté d'afficher un soutien de la composante arabe des forces démocratiques syriennes, là on voit qu'ils annoncent directement apporter un soutien direct aux milices kurdes. Je vais reprendre ma question initiale. Qu'est-ce que la défaite de Daesh peut changer pour Ankara, et est-ce que la Turquie peut tirer un bénéfice là de cette défaite?
Pour le moment, la Turquie est actuellement le pays qui, sur tous les plans, a été le grand vaincu de ce conflit, malgré l'accord avec les Russes pour créer ces zones de désescalade, et notamment à cause du facteur kurde. Alain le disait tout à l'heure, les forces démocratiques syriennes, la composante arabe, elle existe, c'est des gens qui ont été mobilisés plus ou moins de force, mais l'encadrement reste celui des IPG kurdes, et les liens entre les IPG kurdes, le PYD, le parti hégémonique dans le Rojava, c'est-à-dire le Kurdistan syrien, et le PKK turc, sont organiques. Donc à ce niveau-là, il est évident que l'entraînement acquis, le matériel récupéré, une fois Daesh vaincu, seulement
Turquie,
il y aura un Rojava, sur quasiment 800 kilomètres de frontière, enfin un peu moins, c'est disons sur deux tiers de la frontière, 400 kilomètres, qui est organiquement lié avec le parti des rebelles kurdes turcs du PKK. Donc la Turquie, en tout cas, et ça c'était l'aveuglement de cette politique néo-ottomane d'Erdogan qui a voulu revenir vers le Moyen-Orient, est la grande perdante de ce conflit par rapport à ses propres intérêts. Alors elle peut essayer effectivement de garder un peu plus d'influence du côté de Mossoul, plus ou moins avec l'accord, parce qu'il donne une espèce de caution, il rassérène les sunnites, mais ils ont des très bons rapports par ailleurs avec, en revanche, les Kurdes d'Irak du Parti démocratique du Kurdistan.
Hacham Daoud, peut-être un dernier tour de table, on arrive presque au terme de l'émission. Hacham Daoud.
Oui, sur le plan syrien, en vérité, les Américains, ils n'ont pas d'alliés sur le terrain, à part le Kurde. Donc, s'ils veulent apparaître à travers de rapports de force, de négociations, un torrent se trouve autour d'une table, et il faut mettre des cartes pour négocier autour de quoi. Donc, l'allié la plus fidèle, la plus d'ailleurs remerciée, ce sont les Kurdes. Ils se montraient qu'ils sont combattants sur le terrain aussi. Ils résistaient, ils avançaient, et ils se trouvent maintenant sur des territoires, ça pas les leurs. Et ça, c'est nouveau pour le Kurde. au moins au Proche-Orient. Parce qu'en Kurde d'Irak, il se limite avec leur territoire, leur espace géographique. Quand vous demandez à Massoud Barzani, est-ce que vous rentrez à Mosul, il dit non. Et la réponse, il dit, c'est pas une ville kurde. Et je voudrais pas transformer, moi, la guerre en une guerre ethnique arabo-kurde. Ici, c'est qu'on demande aux Kurdes en Syrie de s'investir dans une mission qui va au-delà, dans un rapport de force qui est contre le djihadisme, bien vu internationalement, avec des implications au niveau régional par rapport à le PKK maison mère, avec la Turquie, etc. Ça se complique un petit peu la tâche. Ce qui fait que les Américains sont obligés de jouer l'interférence. Ils rentrent avec un millier de soldats à forces spéciales pour que les Turcs n'attaquent pas les Kurdes qui se trouvent de ce côté-ci. Ils les arment. Et puis, surtout, les Américains, ils ont une stratégie très claire par rapport à la Syrie, beaucoup plus simple que par rapport à l'Irak. C'est une question d'influence. On accepte que les Russes, ils gèrent le dossier syrien, à condition qu'ils réduisent l'espace iranien, qu'il y aura une discussion entre nous sur cet échiquier-là. Mmh. Eux, bien sûr, ils sont en Irak, ils peuvent discuter. La question qui se pose pour les Américains, ils ne peuvent pas s'en passer des chiites. Mais à ce moment-là, quel chiite il sera pro-américain et quel ils seront pro-iranien? Ça, c'est le combat à venir qui se passe aujourd'hui en préparation en filigrane qu'on les prépare pour plus tard.
À la Khomeini, le mot de la fin. D'une certaine manière, c'est plus simple pour les Américains en Syrie qu'en Irak?
Ils ont moins d'objectifs, les Américains, ouais, en Syrie. Ils ont... Leur objectif, c'est plus d'empêcher les autres de gagner. Ça a été d'ailleurs le drame de la Syrie, du conflit syrien dès le début, c'est que les Américains veulent bloquer, mais ne veulent rien faire de spécial. Ils n'ont pas d'objectifs spéciaux. Pareil, là, ils mènent la bataille de Raqqa parce que il faut avoir leur part, le trophée anti-Daesh. C'est indispensable. Maintenant, il faut voir que pour l'instant, je garderai le mot de la fin quand même pour des gens auxquels on pense pas et qui deviennent vraiment très collatéraux. C'est tous ces civils. Non seulement parce que les bombardements aériens maintenant de la coalition sont de plus en plus meurtriers pour les civils, que ce soit en Irak ou en Syrie, mais surtout ces déplacements massifs de populations à l'occasion des guerres. Mossoul, je crois qu'il y a 1 million d'habitants de Mossoul qui sont hors de la ville, sinon plus. Raqqa, il y a au moins les deux tiers de la population qui est vidée et qui n'est même pas dans des camps de réfugiés. Et tout ça ne compte pas. On est vraiment dans la guerre. Dans la guerre, on est en train de viser des gens de Daesh, c'est des avions qui visent Daesh.
Ouais, il faut rappeler que Lise Grand, la coordinatrice humanitaire pour l'Irak, affirmait que justement on était peut-être dans la phase la plus dangereuse précisément en ce moment pour les civils, alors que cette libération arrive peut-être là très bientôt. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, à la Khomeini, Hocham Daoud, Marc Semo, notre partenaire du Monde, d'avoir été avec nous ce matin. Heures passées de 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors hier, vous nous avez signalé un texte paru sur le site Aeon, signé par une universitaire américaine, Holly Case. Elle y analyse le parcours de ces nouveaux autoritaires qui se sont imposés au pouvoir dans des anciennes démocraties populaires. Vous souhaitez revenir sur le sujet à partir d'un article paru dans le dernier numéro de la revue Esprit.
Oui, c'est un texte de Jacques Rupnik, éminent spécialiste de l'Europe centrale, traduit de l'anglais et consacré à la démocratie illibérale dans cette partie de l'Europe. À l'exception des micronations de l'ex-Yougoslavie, la transition du système de parti unique et d'économie dirigée à la démocratie libérale et à l'économie de marché s'était passée de manière harmonieuse en Europe centrale, souligne justement Rupnik. Pendant 2 décennies, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie ou la Hongrie ont fait figure d'élèves modèles de la classe européenne. Alors, comment se traduit cette régression démocratique ? Par le retour au pouvoir en Hongrie du Fidesz, de Viktor Orban, largement victorieux aux élections de 2010 et de 2014. En Slovaquie, ce sont les victoires électorales consécutives du Smer, de Robert Fico, le Orban de gauche, comme on dit sur place. En Pologne, la victoire électorale du parti Droit et Justice en octobre 2015. Et puis la Croatie, qui vient de rejoindre le groupe avec l'arrivée au pouvoir en 2016 d'une coalition dominée par le HDZ, nationaliste.
Et alors, comment expliquer cette espèce de contagion, Brice ?
Il y a d'abord une crise de la démocratie libérale qui n'est pas, hélas, le privilège de la Mitteleuropa. Le libéralisme polonais a épuisé ses arguments, écrit ainsi Zdzisław Krasnodębski, député au Parlement européen et l'un des principaux théoriciens du fameux parti polonais, le PiS, le parti Solidarité et Justice. À ses yeux, la démocratie libérale était le projet de l'élite post-1989. Elle a abouti à une atomisation sans précédent de sociétés autrefois harmonieuses. En tout cas, c'est la thèse de M. Krasnodębski. On retrouve là la thèse selon laquelle ces pays auraient été coupés en deux par une modernisation économique menée au pas de charge. Il y aurait ainsi deux Pologne, celle de Varsovie et des grandes villes de l'Ouest, qui vivent plus ou moins à l'heure du consumérisme à l'allemande, et puis ces villages de la partie orientale qui n'ont guère profité de la transition au capitalisme. Idem entre la Hongrie, dont l'Est et le Sud auraient été oubliés par les élites de Budapest, ou encore en Slovaquie, où la réussite de Bratislava et de Košice aurait été payée par l'abandon de la Slovaquie centrale. Cela aurait alimenté une démocratie de frustration, selon l'expression du politologue polonais Marcin Król, frustration que les partis nationaux populistes auraient exploitée en se présentant comme les représentants du peuple contre les élites.
Et comment se comportent justement au pouvoir ces partis nationaux populistes ?
Cette nouvelle catégorie de dirigeants n'entend plus être limitée par des institutions, des constitutions ou des cours suprêmes. L'ennemi, c'est l'immobilisme légal, tonne Jarosław Kaczyński. Ce que décide le gouvernement, issu de la majorité électorale, ne saurait être arrêté par un cadre juridique préexistant. Comme le relève Rupnik, on est là dans une logique rousseauiste de la volonté générale qui refuse la séparation des pouvoirs et la limitation de l'exécutif par le droit. Cette logique procède d'une nouvelle définition de la communauté nationale. Dans la conception libérale qui est la nôtre, la nation est conçue comme un contrat politique passé volontairement entre des citoyens qui assument la diversité de leurs intérêts et de leur conception du bien. Elle est donc le produit de la rencontre entre des volontés libres. Le national-populisme, lui, dénonce cette conception libérale de la nation qu'il juge constructiviste et artificiel. Il récuse la diversité au nom de son idée de la volonté nationale. Il ressent, par exemple, l'Union européenne, avec son lourd appareil normatif, comme une nouvelle Union soviétique imposée à des peuples réticents. Il refuse qu'elle puisse brider l'expression de la souveraineté nationale. Les nationaux populistes ont de la nation une conception organique et non pas contractuel. Alors une partie de la population de ces pays adhère à ce discours parce qu'elle a le sentiment que son identité nationale est menacée. Et cette inquiétude s'est transformée en panique lors de la crise des migrants de 2015. Les dirigeants de ces pays se sont présentés à cette occasion comme les défenseurs non seulement de leur propre nation, mais de l'Europe elle-même. Dans certains de ces pays, il faut le savoir, des confins de l'espace européen d'autrefois, donc la mémoire des anciennes invasions ottomanes reste vive et il est facile de la réactiver à des fins politiques. En outre, rappelle Rupnik, ces pays ont été traditionnellement des terres d'émigration et non pas d'immigration, et la vie au sein du bloc soviétique, les a habitués à vivre à l'intérieur de frontières hermétiques. Songez, j'en ai fait personnellement l'expérience, que certaines lignes de train à l'intérieur même du pacte de Varsovie s'arrêtaient souvent à quelques kilomètres de la frontière du pays voisin. Alors dans ce contexte, la décision de la Commission européenne d'imposer des quotas de migrants a été interprétée sur place comme un diktat destiné à convertir de force les sociétés d'Europe centrale au multiculturalisme tel qu'il existe dans la partie occidentale. Or ce modèle est ressenti à l'Est comme en échec. Résultat, résultat des régimes hybrides, dit Rupnik, qui ne relèvent, je le cite, qui ne relèvent pas ou pas encore de la dérive autoritaire qui caractérise les régimes de Poutine ou d'Erdogan, mais où la concentration des pouvoirs fausse déjà le cours de la compétition politique.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut bien sûr retrouver sur le site de France Culture. On se retrouve lundi, Brice.